Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La question des migrants est à nouveau en tête de l'agenda politique en Grèce. Le pays est redevenu le premier pays d'entrée sur le sol européen et les camps des îles Égéennes de Lesbos et Samos sont saturés. Le nouveau premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, a promis de réinstaller sur le continent la moitié des demandeurs d'asile qui s'entassent sur les îles dans des conditions insalubres. Mais autant dire que la population voit d'un très mauvais œil cette politique. Reportage dans le nord de la Grèce, dans une petite station touristique près de Thessalonique, signé Joël Brunner.
Dans la petite station balnéaire de Neavrasna, en octobre dernier, une dizaine de bus transportant près de 400 demandeurs d'asile ont été accueillis par plusieurs dizaines d'habitants avec des jets de pierre. Parmi ces Grecs hostiles à leur arrivée, Angela Veslakoudi, une hôtelière de 53 ans.
Nous avons réussi à empêcher les bus d'accéder aux hôtels privés où ils devaient se rendre. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous devions défendre nos droits pour continuer à vivre ici librement, à nous déplacer comme nous l'entendons et aussi à travailler sans difficulté. Nous avons juste fait ce qui nous semblait évident.
Face à la réaction d'une partie de la population locale, les demandeurs d'asile ont finalement été transférés 400 km plus loin. L'hôtelière, inquiète d'une présence qu'elle juge envahissante, se plaint en particulier d'être mise devant le fait accompli et de ne pas être suffisamment informée. Un avis partagé par beaucoup dans cette station balnéaire qui peut compter environ 5000 habitants l'été, alors qu'en hiver, seule une centaine de personnes résident sur place.
La mairie nous a d'abord dit que 700 d'entre eux devaient arriver ici. Nous ne savions absolument pas quand. C'est un matin aux informations que nous avons entendues qu'ils étaient en route. Alors, nous nous sommes préparés. C'est notre droit de dire non. Nous devons être informés. Vous ne pouvez pas faire cela sans la permission des gens, n'est-ce pas? Parce que ces gens, s'ils restent, ils devront aller à l'école, ils devront faire partie de notre communauté et on ne nous a pas demandé notre avis.
Angela Veslakoudi et la dizaine de ses amis de Neavrasna que nous avons pu rencontrer appellent sans détour à la fermeture de toute frontière, notamment pour mettre un terme au trafic des passeurs. Ils accusent aussi les demandeurs d'asile de commettre des délits et de nombreuses rumeurs, tout aussi négatives qu'invérifiées, circulent à leur propos dans les conversations des villageois. Ils doutent par ailleurs ouvertement du statut même de ces demandeurs d'asile, qu'ils appellent souvent soi-disant réfugiés ou bien simplement migrants. Une rhétorique qu'Evangelos Papadakis, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU dans la ville de Thessalonique, voit se déployer au cœur même des institutions grecques.
Media is no longer really reporting on the refugee situation, but on the migrant situation.
La majorité des médias grecs ne parle plus du problème des réfugiés, mais du problème des migrants. Nous observons un changement dans les mots qui sont employés. L'une des raisons principales, c'est que certains représentants de l'État eux-mêmes utilisent à présent un langage différent. Au final, cela semble avoir des conséquences à la fois sur le contenu rapporté par les médias ici et sur l'opinion publique en Grèce.
Which, as a consequence, is also affecting the public opinion.
Au milieu de nulle part, à une sortie de l'autoroute qui relie Thessalonique et Neavrasna, se situe Vagiori et ses quelques dizaines de maisons. Ce jour-là, le froid hivernal y est mordant et le ciel bas et gris donne à Vagiori des allures de village fantôme hanté par la seule présence humaine visible, celle de demandeurs d'asile. À la sortie du hameau, près d'un millier de réfugiés, transférés des îles saturées de Lesbos et de Samos, ont été installés dans ces préfabriqués neufs. À l'entrée du camp, un Afghan de 25 ans, pharmacien de formation, souligne les difficultés de cohabitation avec une partie de la population locale ici.
Ils nous méprisent. Leur comportement n'est pas sympathique à notre égard. Lorsqu'ils voient un réfugié devant un magasin ou devant une maison, ils disent toujours « partez » dans leur langue. Ils nous disent « Elare Malaka », des gros mots comme ça. Lorsqu'on prend le bus, le chauffeur dit toujours « Partez, Malaka, ce n'est pas pour vous », des choses comme ça. Je ne sais pas exactement ce que veut dire Malaka parce que je ne parle pas grec, mais je sens bien que c'est une insulte.
Face à une pression migratoire qui dure depuis maintenant plusieurs années et à des politiques d'urgence qui masquent mal l'absence de gestion à long terme, les mots puis les comportements ont changé. au détriment de la tradition d'accueil du pays.
Et la question d'une répartition équitable des réfugiés entre pays européens n'est toujours pas réglée. La France a pour sa part promis en décembre d'accueillir 400 demandeurs d'asile en provenance de Grèce. Reprise des cours ou des examens pour les étudiants après la coupure des fêtes de Noël et avec elle, la galère. 20% des étudiants en France vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui place le pays loin derrière les Pays-Bas, la Suisse, la Suède ou l'Allemagne, où le taux de pauvreté est de 3 à 5 points plus faible. Les aides sociales sont pourtant nombreuses dans l'Hexagone, mais leur montant est faible. Lise Verbeek est allée à la rencontre de ces étudiants touchés par la précarité dans le nord de la France.
Louise fait partie des 31 500 étudiants d'Amiens. Elle est en première année de licence en sciences sociales et elle vient de Bourgogne.
Par mois, je touche 168 euros de la bourse et 219 d'APL. Ouais.
Des aides au logement.
Oui. Et mon loyer il est de 320. Et pourtant, c'est pour un 9 mètres carrés. En plus de ça, il faut que je paye mon électricité par moi-même. Donc, il faut que j'accumule les deux. Et au final, pour le mois, j'ai 32 euros pour faire mes courses.
Avec un tel budget, Louise saute régulièrement des repas. Et c'est d'autant plus difficile qu'elle souffre d'un trouble alimentaire qui s'est accentué depuis qu'elle est rentrée à la fac.
On s'inquiète toujours. Le stress, il revient. On ne sait pas si on va pouvoir manger à sa faim, s'il va falloir réduire les portions. Moi, je me dis tout ça en tête. Je me dis, il va falloir que je prévois telle quantité, limite. Des fois, je me fais des gamelles à l'avance. J'ai des amis qui viennent avec des gamelles assez grandes, alors que moi, mes gamelles, elles sont vraiment toutes petites, toutes fines. Et ils sont tous là, « Ah, mais tu manges que ça ?» Je dis, « Oui, pas vous. » Et je vois leur gamelle et je dis, « Ah oui, d'accord, oui, c'est une grande différence. Oui. »
La jeune femme sait qu'elle ne tiendra pas longtemps et c'est pour cela qu'elle s'est fixé 3 ans d'études, pas plus. Pour l'instant, elle ne souhaite pas travailler à côté des cours car son emploi du temps est chargé. Près d'un étudiant sur deux est salarié. C'est le cas de Yolan en master 1 de sociologie.
J'ai baissé en bourse cette année. Du coup, j'ai dû augmenter mes heures au travail parce que je travaille à côté, en fait, au McDo. Je suis passé de 15 heures par semaine à 18 heures semaine. Je me couche vers 2 heures du matin en rentrant du travail. J'essaie de me lever tôt, j'arrive pas. Du coup, le week-end, je peux pas travailler mes cours et la semaine, c'est un peu plus compliqué. Et puis, j'ai aussi trouvé un petit temps pour avoir une vie sociale, en fait. Sortir avec des amis, aller boire un verre, quelque chose pour décompresser.
Alors Yolan a trouvé une astuce, quand il sort, au lieu de boire une pinte, il commande une bière plus petite et il la sirote pendant plusieurs heures. Il ne veut surtout pas se couper de cette vie sociale, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'étudiants. Selon une étude récente menée par la FAEP, la Fédération des associations étudiantes Picardes, un étudiant sur deux qui habite dans une résidence universitaire se sent isolé et c'est le cas pour 20% des jeunes qui vivent dans un logement privé. De plus en plus d'étudiants souffrent de dépression. Un étudiant sur 5 aurait déjà eu des pensées suicidaires.
Je vous emmène jusqu'à notre présidente.
Okay. Angèle Lemaire, présidente de la FAEP.
C'est une question dont on s'empare de plus en plus, ce suivi psychologique, ces problèmes de santé mentale liés au stress, à l'isolement. C'est des temps de consultation psychologue avec le CROUS et il y a le service de santé universitaire où il suffit de prendre un rendez-vous sur Doctolib pour rencontrer un psychologue.
Mais les étudiants peinent encore à pousser la porte de ce service par méconnaissance ou par pudeur. Difficile aussi pour certains d'entrer ici. Nous sommes à l'Agorae, située à quelques pas de la fac de droit.
Là, vous avez l'épicerie, donc épicerie sociale et solidaire par et pour les étudiants.
Ici, on trouve des produits d'hygiène, de la viande, du fromage, des pâtes, des conserves et des biscuits, des denrées données par la banque alimentaire. Les prix sont 90% moins chers que dans les supermarchés. Il y a aussi des paniers de légumes bio vendus à 5 euros, 2 euros moins chers par un producteur du coin qui participe à l'épicerie car, dit-il, manger bien et bio ne doit pas être réservé aux gens aisés.
Là, ça te fait 77 centimes.
Sophia vient faire ses courses plusieurs fois par semaine dans l'épicerie.
Si on passe dans un supermarché, on le paye extrêmement cher, comparativement au prix ici, donc ça aide vraiment un peu les étudiants.
Sophia travaille à chaque vacances scolaires et se trouve régulièrement dans le rouge à la banque. Elle croise les doigts pour ne pas tomber malade et s'inquiète pour la suite de ses études car elle va devoir faire des stages.
Faire des études, c'est faire des sacrifices. Bon, je me dis que bon, ce n'est qu'une période, donc ça va passer et après tout ira bien, quoi.
Les syndicats étudiants dénoncent régulièrement cette précarité et réclament davantage d'aide. Récemment, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un numéro d'appel d'urgence pour avoir accès aux aides qui ne sont pas toutes utilisées. Il resterait 15 millions d'euros chaque année.
Et si les frais de scolarité ne représentent que 9% du budget étudiant en France, ils grimpent à 32% en Irlande, un pays où les loyers ont aussi flambé ces dernières années. La pénurie et la cherté des logements impactent profondément les étudiants. Un coup d'œil sur les petites annonces suffit à le prouver. À Dublin, Emeline Vin.
3 lits simples disponibles dans une chambre partagée située à 6 km du centre-ville, 320 euros par mois hors charge. Chambre seule, disponible chez l'habitant du lundi au vendredi, 100 euros par semaine. À Dublin, se loger à un prix abordable et dans des conditions correctes, c'est un véritable défi pour les étudiants. D'ailleurs, 4 sur 10 vivent encore chez leurs parents. Pour les autres, le loyer représente la moitié du budget mensuel, à 570 euros en moyenne, en général dans une colocation à 3 ou 4. Pour subvenir à leurs besoins, près de la moitié des étudiants n'ont pas d'autre choix que d'avoir un emploi à côté de leurs études, selon l'autorité de l'éducation supérieure irlandaise. Leur activité salariée n'a en général aucun lien avec le champ d'études. Les jobs étudiants concernent surtout le secteur tertiaire peu qualifié et ces étudiants risquent de moins bien réussir leurs examens puisque leur travail les conduit à rater des cours magistraux et à accumuler de la fatigue. À Dublin et dans le reste du pays, il y a une pénurie de logements. Les propriétaires ont fait grimper les prix. Les loyers ont augmenté de 20% depuis 2008, avant le début de la crise. Pas étonnant donc que les étudiants soient également concernés. 1 sur 3 d'ailleurs se dit en difficulté financière sérieuse ou très sérieuse. Pour le président du syndicat étudiant de Trinity College, la prestigieuse université dublinoise, les étudiants sont tout simplement chassés des études supérieures au profit des étrangers réputés plus fortunés. Les résidences étudiantes de haut standing, avec balcon et salle de sport intégrées, se multiplient dans la capitale pour plusieurs centaines d'euros par semaine. Every day I think about the money. Let's go. What am I gonna do with all this money? I can't go a day without my money. Et parmi les pays où les étudiants s'en sortent le mieux, selon le baromètre Eurostudent, on trouve la République tchèque. À Prague, les étudiants poussent même la solidarité un peu plus loin. En plein centre-ville, une université ouverte, le campus Ibernska, qui propose des conférences à tous les publics, a mis en place une bibliothèque des choses. Alexis Rosenzweig nous explique son fonctionnement.
Au cœur du campus Ibernska, il y a d'abord une pièce où sont entreposés des habits et des objets que chacun peut emporter gratuitement s'il en a besoin. Juste derrière se trouve ce qui a été baptisé la bibliothèque de choses, gérée par des volontaires, un petit hangar rempli de choses comme des outils, des skis ou des appareils photos que l'on peut emprunter pour une durée déterminée, à condition de payer une somme modique et de laisser une caution. Ce campus alternatif de la faculté de lettres est situé dans le centre de la capitale tchèque, entre la vieille ville et la gare centrale. Fondée dans des bâtiments inoccupés, il doit servir, selon ses initiateurs, à créer du lien entre les étudiants et le reste de la société. Environ 2 ans après son ouverture, le campus Ibernska semble avoir atteint son objectif, à en juger par le succès des conférences, lectures, concerts et autres débats qui y sont organisés. La cafétéria est également ouverte à tous, avec des prix relativement plus raisonnables qu'ailleurs dans ce quartier touristique, et bon nombre de parents s'y rendent avec leurs enfants en bas âge qui peuvent profiter de la salle de jeu. Rattachée à l'université Charles et subventionnée en partie par la ville de Prague, le campus propose en ce début d'année un programme riche et varié avec, dès la semaine prochaine, une conférence sur l'enseignement de la médecine au Népal, une pièce de théâtre, une présentation sur le marketing des jeux vidéo, un débat sur l'état des forêts en République tchèque et la projection d'un documentaire norvégien avec entrée gratuite.
qu'y avait-il sous le sapin à Noël? Des livres en très grand nombre, en tout cas sous le sapin des Islandais. On retrouve à Reykjavik notre correspondant Jérémy Richard. Jérémy, on peut dire qu'offrir des livres à Noël est une grande tradition typiquement islandaise.
Au pays des sagas, ces textes rédigés au XIIIe siècle formant la base de l'histoire des monarchies scandinaves et de la mythologie nordique, rares en effet sont les sapins sous lesquels il n'y a pas au moins un livre en cadeau. Car deux mois avant les fêtes débute le Jólabókaflóð, littéralement déluge de livres de Noël en islandais, où des centaines de livres sont mis en rayon. Une tradition vitale pour les métiers du livre dans ce pays de 360 000 habitants, puisque deux tiers des titres paraissent à cette période de l'année. Sigrun Rofsdottir est artiste et mère de deux enfants. Et pour elle, un Noël sans livre, c'est inconcevable.
La littérature est très importante en Islande et c'est, je crois, la forme d'art à laquelle tout le monde s'identifie.
Cette tradition de s'offrir un livre puise sa source à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Islande est pauvre et limite les importations pour éviter l'endettement des ménages. Seul bien resté abordable, le livre, donc, qui devient ainsi le cadeau idéal du Père Noël. L'Islande vient aussi tout juste de s'émanciper de près de 7 siècles de domination norvégienne puis danoise. Halldór Guðmundsson est écrivain et ancien président de Forlagið, la plus grande maison d'édition d'Islande.
Il y a un rapport avec les débats sur l'importance de la littérature lors de la lutte pour l'indépendance et la quête identitaire islandaise. Pour être islandais, il fallait lire des livres.
Et cette période de fin d'année, Jérémy, est devenue vitale pour tout le secteur de l'édition.
Oui, le Jólabókaflóð représentait en effet près de 40% du chiffre d'affaires des éditeurs islandais en 2018, selon l'Institut islandais de la statistique. À titre de comparaison, les ventes à l'approche de Noël représentent un tiers du volume annuel au Royaume-Uni et un quart en Allemagne, les deux plus gros marchés d'Europe. Páll Valsson est directeur de publication chez Bjartur, deuxième éditeur d'Islande, dont les ventes d'avant Noël représentent environ 70% du revenu annuel.
C'est tellement important que si cette tradition meurt, le secteur islandais de l'édition meurt. C'est aussi simple que ça. Toute l'industrie du livre est basée sur cette tradition, sans laquelle nous publierions certes quelques livres, mais ce ne serait rien comparé au marché aujourd'hui.
Pays le moins densément peuplé d'Europe occidentale, l'Islande est en revanche celui qui publie le plus de nouveaux titres par habitant au monde, derrière le Royaume-Uni, selon l'Association internationale des éditeurs. Et forcément, pareille profusion est un combat pour les écrivains dont fait partie Lilja Sigurðardóttir. Son polar La Cage, dernier volet d'une trilogie, est sorti en France l'an passé aux éditions Métayer.
Avec cette période de publication dans un pays si petit où il y a autant de livres à sortir en même temps, il faut batailler pour obtenir l'attention des médias et des lecteurs. Donc malheureusement, il y a beaucoup de bons livres noyés dans la masse.
Et on peut acheter des livres partout et pas seulement en librairie.
Oui, pendant deux mois, les supermarchés islandais vendent exceptionnellement des livres aussi. Résultat, en novembre et décembre, il est très facile de trouver les derniers romans au milieu du rayon frais, à l'entrée des magasins ou près des biscuits. Une répartition qui permet de rendre plus abordables des biens relativement chers le reste de l'année, car contrairement à la France par exemple, il n'existe pas de tarif unique pour les livres. Il faut compter 6 990 couronnes pour un roman, l'équivalent d'environ 51 euros, soit plus de deux fois le prix en France.
Alors bien sûr, on a envie de savoir quel livre on a le plus offert cette année, Jérémy.
D'abord, il faut savoir que ces cinq dernières années, ce sont les auteurs islandais qui ont le plus la cote auprès des lecteurs du pays. Ensuite, sans surprise, puisqu'il en est ainsi presque continuellement depuis 20 ans, le dernier polar de l'auteur islandais Arnaldur Indridason est le livre le plus acheté pour les fêtes de fin d'année. Intitulé Tregastate en islandais, sa traduction en France devrait débuter cet été avant une sortie début février 2021. L'écrivain écoule en moyenne 20 000 copies tous les ans dans son pays natal, lui qui a aussi franchi les 14 millions d'exemplaires vendus dans le monde l'an passé, traduits dans plus de 40 langues. Et le deuxième livre le plus vendu, c'est celui de André Snær Magnason, Um tíman og vatnið, un livre autour du défi climatique. L'auteur est très engagé pour la cause et le sujet tient de plus en plus à cœur aux Islandais.
Merci Jérémy Richard à Reykjavik. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelo. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site de RFI à la rubrique podcast Accent d'Europe. On se retrouve dès demain.